Chapitre 3. La question de l'éducation des femmes est intimement liée à une autre, beaucoup plus grave, celle de leurs droits. Nous voyons qu'aujourd'hui, on les agite ordinairement toutes les deux ensemble. En Allemagne, aux États-Unis et presque partout, elles sont l'une et l'autre l'objet de discussions violentes. Il est évident qu'on ne réclame que pour la jeune fille une instruction plus complète, plus étendue et plus approfondie qu'afin de lui donner le moyen d'exiger plus de place et d'importance dans la société. L'Antiquité, qui discuta sur tant de choses où tant de systèmes furent soutenus et tant de problèmes soulevés, paraît s'être assez peu occupée de ces questions délicates. Tout le monde sait qu'à Rome, surtout, la situation des femmes n'était pas bonne. On est même tenté de la croire beaucoup plus mauvaise qu'elle ne l'était réellement. On suppose volontiers qu'on y traitait à peu près comme des esclaves, et l'on croit qu'il n'a pas fallu moins d'une révolution sociale et religieuse pour les émanciper. C'est l'opinion de ceux qui jugent uniquement Rome d'après ses lois. Il est sûr que la loi romaine est très dur pour les femmes. Nos aïeux, dit Tite-Live, ont défendu à la femme de s'occuper même d'une affaire privée sans avoir quelqu'un qui l'assiste. Ils ont voulu qu'elle fût toujours sous la main de son père, de ses frères ou de son mari. Quand on songe à cette servitude légale qui pèse sur elle et n'a pas de fin, or, on ne peut s'empêcher de s'apitoyer sur son sort. Mais on se rassure vite si, au lieu de s'en tenir à des textes de loi, on étudie le monde et la vie. Là, au contraire, son rôle est considérable. On l'entoure d'honneur et d'égard. Elle est respectée de son mari, vénérée des enfants, des esclaves, des clients, maîtresse de la maison. La loi et l'usage se trouvent donc ici en désaccord, et dans ce conflit, c'est la loi qui, en définitive, a été vaincue. Les juristes consultes eux-mêmes le constatent. Ils avouent que cet esclave, qu'il également ne peut disposer de rien et qu'on retient dans une tutelle éternelle, se trouve être en réalité l'associé, la compagne, presque l'égale du mari. Elle siège, je dirais volontiers, elle trône avec lui dans l'atrium, près du foyer domestique. L'atrium n'était point comme le gynécée, un appartement reculé, un étage supérieur de la maison, retraite cachée et inaccessible. C'était le centre même de l'habitation romaine, la salle commune où se réunissait la famille, où étaient reçus les amis et les étrangers. C'est là, près du foyer, que s'élevait l'autel des dieux là, et autour de ce sanctuaire étaient réunis tout ce que la famille avait de précieux ou de sacré. Le lit nuptial, les images des ancêtres, les toiles et les fuseaux de la mère de famille, le coffre où étaient serrés les registres domestiques et l'argent de la maison. C'est sous la garde de la femme qu'étaient placés tous ces trésors. Elle offrait, comme le chef de famille lui-même, les sacrifices aux dieux lars, elle présidait aux travaux intérieurs des esclaves, elle dirigeait l'éducation des enfants, qui jusque dans l'adolescence restaient longtemps encore soumis à sa surveillance et à son autorité. Enfin, elle partageait avec le mari l'administration du patrimoine et le gouvernement de la maison. Dès que la nouvelle épouse avait mis le pied dans l'atrium de son mari, elle était associée à tous ses droits. C'est ce qu'exprimait une antique formule. Au moment de franchir le seuil de sa nouvelle demeure, la mariée s'adressait à l'époux ces paroles sacramentelles « Ubi tu, Gaius, ubi ego, Gaia ». Là où tu es, le maître, moi, je vais être la maîtresse. La femme devenait maîtresse, en effet, de tout ce dont le mari était maître, et Caton l'Ancien ne faisait qu'exagérer une observation judicieuse lorsqu'il s'écriait plaisamment « Partout les hommes gouvernent, les femmes, et nous, qui gouvernons tous les hommes, ce sont nos femmes qui nous gouvernent. C'est donc une chimère de prétendre remonter dans l'histoire de Rome jusqu'à un temps où les femmes étaient entièrement esclaves dans la maison. Jamais elles n'ont été aussi opprimées qu'on le suppose. Si les vieux poètes parlent avec grand respect de la majesté du père de famille, ils célèbrent aussi la sainteté du nom de la matrone. On peut même prétendre que la manière dont les écrivains anciens expliquent cette infériorité légale dans laquelle on voulait les retenir ne leur est pas trop défavorable. Le Romain prévoyait que dans cette lutte d'influence qu'il allait livrer avec sa femme, il serait vaincu. Il se sentait d'avance le plus faible et n'avait fait ses lois rigoureuses que pour se donner des armes contre elle. Mais les historiens nous disent que tous ses secours ne lui servaient guère et qu'elle n'avait pas de peine à regagner dans la maison tout ce qu'au dehors la législation lui faisait perdre. Bientôt même, cette victoire intérieure et domestique ne lui suffit pas. Périclès disait aux Athéniennes que leur sexe n'avait qu'une seule gloire à espérer, c'est qu'on ne parlât jamais d'elle ni en bien ni en mal. Une Romaine s'en serait pas contentée. En récompense de leur dévouement pour la République, les femmes obtinrent à Rome le droit d'être louées publiquement après leur mort comme les hommes. Aux obsèques d'une grande dame, le cortège s'arrêtait au forum et le plus proche parent de la défunte, montant à la tribune, faisait l'éloge de sa naissance et de ses vertus. Elles étaient en possession de ce droit dès l'époque de Caton, leur ennemi acharné. Avec le temps, elles en conquirent beaucoup d'autres. À mesure qu'on avance dans l'histoire de Rome, on voit leur importance s'accroître. Il leur était déjà arrivé, pendant la République, de n'être pas sans influence sur les délibérations du peuple et du Sénat, mais elles n'y intervenaient encore que d'une façon détournée. Sous l'Empire, elles ne prennent plus la peine de cacher la part qu'elles ont dans la direction des affaires. Auguste, si jaloux de son pouvoir, consent presque à le partager avec Livie. Il la consulte dans des situations graves. Il l'associe aux honneurs qu'on lui rend. Il lui fait accorder, ainsi qu'à sa sœur Octavie, l'inviolabilité tribunicienne. Claude est entièrement gouverné par ses femmes, et rien ne se fait plus dans l'Empire sans leur aveu. Le jour où le chef breton Caractacus fut conduit enchaîné dans les rues de Rome pour orner le triomphe impérial, Agrippine était placée sur un trône, non loin de celui de son mari, entourée comme lui des soldats et de leurs aigles, et le vaincu dut lui rendre les mêmes hommages qu'à l'empereur. C'était assurément un spectacle nouveau, dit Tacite, et fort opposé à l'esprit de nos ancêtres, de voir une femme siéger devant les enseignes romaines. Il ajoute qu'elle ne suffisait pas à Agrippine d'être l'épouse du prince et qu'elle voulait qu'on la regardât comme associée à son empire. Cette prétention cessa bientôt de surprendre tant elle devint commune. Avec les Antonins, on commence à donner aux impératrices le nom de mère des camps et des légions. On y joignit plus tard celui des mères du peuple et du Sénat. Et ces titres n'étaient pas de pure flatterie. Il leur est arrivé souvent, avec les sévères, de disposer de l'Empire et de le gouverner à leur gré, sous le nom de leur mari ou de leur fils. L'exemple donné par la cour fut naturellement limité partout. Nous voyons souvent, à cette époque, les femmes de la haute société de Rome se mêler ouvertement aux intrigues politiques. Elles y apportent ces qualités de finesse et de ténacité qui leur sont ordinaires. Si elles ne peuvent pas demander pour elles-mêmes les charges de l'État, elles ont leurs protégés en faveur desquels elles sollicitent. Sénèque dut en partie sa question aux démarches actives de sa tante. C'était une femme simple et qui vivait dans la retraite, mais l'affection qu'elle avait pour son neveu la tira de sa solitude et la rendit audacieuse. « Elle a fait des briques pour moi, » nous dit-il. Aussi était-ce une manière de faire son chemin que de chercher à plaire aux dames. Tacite parle d'un consulaire dont le talent consistait à s'attirer leur faveur et qui leur devait sa fortune. Hors de Rome, elles étaient bien plus puissantes encore. Rien ne les empêchait de se donner toute l'importance qu'elles souhaitaient avoir quand elles n'étaient plus sous les yeux de l'empereur et des gens qu'elles pouvaient craindre. On délibéra un jour dans le Sénat pour savoir si on devait permettre aux magistrats chargés de gouverner les provinces d'emmener leurs femmes avec eux. Un sénateur rigoureux, Coecina Severus, se plaignit amèrement de tous les abus dont elles étaient cause et déclara en propres termes que, depuis qu'on avait relâché les liens dont les ancêtres avaient cru devoir les enchaîner, elles régnaient dans les familles, dans les tribunaux et dans les armées. La violence de Coecina eut peu d'approbateurs, et quoiqu'il fût de règle au Sénat de louer sans fin le passé, on fut d'accord qu'en bien des choses, on avait eu raison d'adoucir la rigueur des anciennes lois, et on laissa les proconsuls libres de partir avec leurs familles s'ils le jugeaient bon. Tout le monde était pourtant obligé de reconnaître que les reproches qu'on leur faisait n'étaient pas entièrement injustes. Il n'y avait guère de procès de concussion où la femme du gouverneur ne fût impliquée. Tous les intrigants de la province s'adressaient à elle, elle s'entremettait dans les affaires et les décidait. Elle s'occupait de tout, même de la discipline militaire et de la direction des armées. On en vit qui, à cheval, près de leur mari, assistait à leurs exercices, présidait à des revues, haranguait les écrous. Du moment que l'épouse de l'empereur se faisait appeler la mère des camps, celle des légats impériaux semblait autorisée à rechercher la faveur des légions. Elles y réussissaient souvent, et l'on vit plus d'une fois, ce qui semblerait fort extraordinaire de nos jours, des soldats et des officiers se réunir pour élever une statue à la femme de leur général. Nous sommes très loin, comme on le voit, de la servitude et de la réclusion à laquelle on suppose d'ordinaire que les Romains étaient condamnés. Ce qui seul est vrai, c'est que cette indépendance qu'on leur accorde est plutôt une affaire de tolérance et d'usage que de principe. Les lois civiles étaient tout à fait opposées. La philosophie ne la favorisait pas davantage. Nous avons déjà dit que les sages de la Grèce paraissent s'être fort peu occupés de cette question des droits de la femme si ardemment agitée de nos jours. Et quand par hasard ils y touchent, on voit bien qu'ils lui sont fort contraires et peu disposés à lui donner une place convenable dans la famille et dans l'État. Lorsque Platon veut tracer le tableau d'une société démocratique à laquelle ses magistrats comme de mauvaises chansons versaient la liberté toute pure, et qui s'en est servi enivré jusqu'à perdre entièrement la raison, il y représente l'esclave refusant d'obéir à son maître, et la femme qui prétend s'égaler à son mari. Voilà ce qui lui semble comble du désordre dans un état moral mal ordonné. Aristote est plus insolent encore. « Assurément, dit-il, il peut y avoir des femmes et des esclaves qui soient honnêtes. Cependant, on peut dire d'une façon générale que la femme est d'une espèce inférieure et l'esclave un être tout à fait méchant. » Les philosophes de Rome, dans leurs ouvrages théoriques, ne s'expriment pas autrement que ceux de la Grèce. Cicéron reproduit le passage de Platon que je viens de citer, et semble l'accepter pour son compte. Sénèque affirme brutalement, comme Aristote, que la femme est un être ignorant et indompté, incapable de se gouverner lui-même, animal imprudens, ferum cupiditatum in patiens. Il ne peut donc être question de leur accorder les privilèges et de réclamer pour elles plus de justice et d'égalité. Mais à Rome, ce que les sages semblaient si éloignés de le faire, s'était fait tout seul. Contrairement à ce qui arrive d'ordinaire, les principes restèrent en arrière de la pratique, et tandis que les philosophes et les législateurs semblaient s'entendre pour retenir les femmes dans une condition dépendante, l'opinion et l'usage les avaient émancipées. Il faut évidemment chercher l'origine de cette émancipation dans l'idée élevée que les Romains s'étaient toujours faite du mariage. Ils le regardaient comme le mélange de deux vies, et ce mélange ne pouvait être complet que si tout était commun entre les deux époux. « Quand je t'ai épousé, disait à Brutus la noble Portia, c'était non pas seulement pour être comme une courtisane à côté de toi, au lit et à table, mais pour prendre ma part du bien et du mal qui pourrait arriver. » Ce partage égal des biens et des maux introduit un principe d'égalité dans la famille. Rien ne résista dans la suite à ce principe. Il finit par vaincre les préjugés du monde, les théories des philosophes et les prescriptions de la loi. Ces règlements sévères par lesquels on avait prétendu enchaîner les femmes furent successivement éludés ou abolis. Les jurisconsultes ont montré, et c'est une étude très piquante, par quelles manœuvres habiles elles parvinrent, sous l'Empire, à renverser toutes les barrières élevées autour d'elles par l'ancien droit civil et à établir l'égalité entre elles et leurs maris. On finit même par abroger ce privilège dont le vieux Caton se montre si naïvement fier dans un de ses discours où il dit « Si tu trouves ta femme en flagrant délit d'adultère, disait-il, la loi te permet de la tuer sans jugement. Mais si par hasard elle te surprenait dans la même situation, elle n'oserait pas te toucher du bout des doigts, la loi le lui défend. » L'empereur Antonin fit disparaître cette différence et l'adultère du mari fut puni comme celui de la femme. Quoique la législation de l'Empire porte la trace évidente des changements qui s'accomplissent, alors dans la condition des femmes, c'est ailleurs qu'il faut regarder si l'on veut savoir véritablement jusqu'à quel point elles étaient libres. Ceux qui s'imaginent que leur émancipation est une conquête récente et qui en félicitent à tout moment le monde moderne seraient, je crois, fort surpris si au lieu d'étudier toujours le monde ancien dans les livres des philosophes ou des jurisconsultes, ils consentaient à le regarder un peu dans la réalité et dans la vie. Les inscriptions nous donnent sur ce point des renseignements fort curieux. Nous sommes moins disposés, après les avoir considérées de près, à plaindre les femmes de Rome. Nous trouvons même qu'elles jouissaient de privilèges que celles de nos jours ne possèdent plus. Elles avaient le droit de former, comme les hommes, des associations qui se donnaient des chefs à l'élection. L'une d'entre elles porte le nom respectable de Société pour la conservation de la pudeur, Sodalitas Pudicidae Servande. À Lanuvium, il y en avait une qui se nommait le Serena des femmes, et ce nom rappelle une institution fort curieuse de Rome qui, par malheur, nous est assez mal connue. C'est ce qu'on appelait la réunion des matrones, Conventus Matronarum, où se rassemblaient les femmes de grandes maisons. Suétone rapporte qu'on s'y disputait souvent fort aigrement et même qu'on s'y battait quelquefois. Une fantaisie de l'empereur Héliogabale donna à cette réunion une importance politique. Il régla de quelques personnes, elles seraient composées, quel jour on s'y rassemblerait, et voulut qu'elle portât le nom de Petit Sénat. Sénaculum. On y faisait des senatus consultes pour trancher toutes les questions d'étiquette. On y décida, par exemple, quel devait être le costume des femmes selon leur rang, à qui appartenait la présence dans les cérémonies. Quand deux d'entre elles se rencontraient, laquelle devait faire les premiers pas pour venir embrasser l'autre? De quelle espèce d'attelage ou de voiture chacune pouvait se servir? Pour qui était réservé l'usage des chars traînés par des chevaux ou des mules? Des chaises à porteurs garnies d'argent ou d'ivoire? Qui avait le droit de mettre de l'or ou des pierreries sur ses chaussures, etc.? Cette institution bizarre, détruite à la mort de Liogabal, qui lui avait donné des attributions ridicules, fut sans doute rétablie par un de ses successeurs, puisqu'elle existait du temps de Saint Jérôme. Elle a donc duré autant que l'Empire. Les femmes de naissance plus obscures et qui ne pouvaient espérer entrer dans le petit Sénat n'en formaient pas moins des sociétés qui n'étaient pas sans importance. Il est arrivé même à ces sociétés de s'insinuer dans les affaires municipales et d'y jouer un certain rôle. On y délibérait sur des récompenses qu'on voulait accorder à un magistrat de la ville. On y votait des fonds pour élever des monuments et des statues. Dans les élections, les femmes ne sont pas admises à donner leur suffrage, mais il ne leur est pas interdit de recommander le candidat qu'elles préfèrent. Parmi les réclames électorales qui remplissent les murs de Pompéi, beaucoup sont signées par des femmes. Quand elles étaient riches et de bonne naissance, mariées à des personnages importants qui occupaient les premières magistratures, la reconnaissance de leurs concitoyens ne les séparait pas de leurs maris et les élevait des monuments communs. Souvent aussi, elles cherchent à provoquer cette reconnaissance par des bienfaits particuliers dont elles comblent leur pays. Elles construisent des temples, des portiques, elles ordonnent le théâtre et elles donnent des jeux en leur nom. Les villes paient toujours ces bienfaits par des honneurs publics. Les femmes y reçoivent peu à peu près les mêmes hommages et prennent les mêmes titres que les hommes. Les grandes associations se mettent sous leur patronage, on les appelle mères et protectrices du municipe, et cette dignité leur est accordée à la suite d'une délibération solennelle qui en rehausse le prix. Nous avons le texte d'un décret de ce genre, rendu par le Sénat d'une ville d'Italie en l'honneur d'une grande dame, Numia Valeria, prêtresse de Vénus. Il y est dit que tous les sénateurs sont d'accord qu'il est juste de lui donner le nom de protectrice de la ville, qu'il faut obtenir de sa bonté qu'elle veuille bien accepter volontiers de bon cœur ce titre qu'on lui offre, qu'elle daigne recevoir chacun des citoyens en particulier et la République en général dans la clientèle de sa maison, et que toutes les fois que l'occasion s'en présentera, elle la défend et la protège par sa puissante intervention, qu'enfin on lui demandera qu'elle permette de lui présenter une table d'airain contenant le décret qu'on vient de rendre et qui lui sera remis par les magistrats de la ville et des premiers du Sénat. Sans doute on ne doit pas exagérer l'importance de ces hommages. C'étaient des titres honorifiques qui ne conféraient pas de pouvoir réel. Il n'en est pas moins vrai de dire que sous l'Empire romain, les femmes s'approchaient plus de la vie publique qu'il ne leur est permis de le faire aujourd'hui. Chapitre 4. Nous venons de voir qu'avec l'Empire, l'éducation des femmes devint plus étendue et leur situation plus indépendante. Quelles furent les conséquences de ce changement pour la morale publique ? Rome s'est-elle bien trouvée de s'être relâchée de ses antiques rigueurs, ou faut-il donner raison à ceux qui ne cessaient de se plaindre qu'on eût abandonné les usages des aïeux? La question serait vidée si l'on se fiait entièrement aux témoignages des moralistes et des satiriques. Tous nous présentent de leur époque les tableaux les plus repoussants. Ils sont surtout fort sévères pour les femmes, et c'est contre elles qu'ils dirigent leurs plus violentes attaques. Avant d'accepter leur opinion, il faut se souvenir qu'il n'y a pas de pays où les maximes anciennes se soient plus longtemps maintenues qu'à Rome. On les répétait encore quand on ne les pratiquait plus. Après qu'elles avaient cessé d'être des traditions vivantes sur lesquelles on réglait sa vie, elles continuaient d'exister comme des préjugés hargneux qui fournissaient des armes commodes à tous les mécontents. L'opinion publique leur restait volontiers fidèle. Lors même qu'elle sentait la nécessité de céder quelque chose aux exigences du présent, elle éprouvait beaucoup de peine à se détacher du passé. Il entrait un peu de mauvaise grâce dans toutes les concessions auxquelles elle se résignait, et elle était toujours disposée à faire payer ses complaisances par quelques sévérités. En même temps qu'elle laissait les femmes mener une existence plus libre, elle comblait d'éloges l'époque où elle vivait plus retirée. Elle prétendait juger les mœurs de ce siècle avec les idées d'autrefois. Elle acceptait les principes nouveaux et se révoltait contre les conséquences. Ces dispositions, qui étaient alors celles de tous les moralistes, devaient nécessairement les rendre injustes et exagérées. Quand on examine de près les reproches qu'ils adressent aux femmes, on s'aperçoit que les défauts qu'ils reprennent chez elles avec tant d'amertume étaient la suite presque inévitable de leur nouvelle façon de vivre. Ils avaient leur source dans cette émancipation et cette indépendance dont quelques-uns pouvaient faire un mauvais usage, mais qui n'en était pas moins un progrès et un bonheur pour l'humanité. C'est ainsi qu'on les accuse souvent d'être devenues impudentes, effrontées, de vouloir toujours attirer les yeux sur elles, d'aimer à étaler partout leur coquetterie. Quand une matrone, dit l'orateur Porcius Latro, veut être en sûreté contre les tentatives des audacieux, elle doit se vêtir tout juste assez bien pour ne pas paraître malpropre. Il faut qu'elle s'entoure de servantes d'un âge respectable, dont le seul aspect écarte les galants. Il convient qu'elle marche toujours les yeux baissés. Quand elle trouve un de ces empressés qui saluent toutes les femmes qu'il rencontre, il vaut mieux qu'elle paraisse impolie que de sembler engageante. Si elle ne peut se dispenser de rendre le salut, qu'elle le fasse avec confusion et le rouge au front. Que son attitude soit telle que, si l'on est tenté de lui faire des propositions peu honnêtes, son visage dise « non » bien avant sa parole. Voilà comment elle devrait se garder elle-même pour décourager d'avance les amoureux. Mais au contraire, voyez-les se présenter le visage paré de séduction, à peine un peu plus vêtu que si elle n'avait pas de vêtements. Palo obscurius quam possita veste nudae, avec un langage si enjoué, un air si caressant, qui donne à tout le monde l'audace de s'approcher. Et puis, soyez surpris quand elles révèlent leur honteux désir par leur toilette. Leur démarche, leurs paroles, leur visage, qui se trouvent des gens qui ne savent pas se dérober à ces effrontés qui tombent sur eux. Il peut bien se faire que Porcius Latro, quoiqu'il eût l'habitude de déclamer, n'ait pas tracé un portrait de fantaisie, mais ses défauts qu'il reproche aux femmes, et que tout le monde le reproche comme lui, sont de ceux qu'il est difficile d'éviter quand on ne les enferme pas dans un gynécée. On dirait vraiment que les moralistes et les satiriques de ce temps regrettent qu'on les ait laissés sortir. Ils ne peuvent pas s'accoutumer à les voir libres, indépendantes, mêlées au monde et aux affaires, et ne cessent de leur en faire un crime. Ce n'était pourtant pas tout à fait une nouveauté, comme on le prétendait. Elles ont toujours été moins retenues à la Rome que dans la Grèce. Quoique la matrone romaine se fasse honneur dans son épitaphe d'être restée chez elle, nous savons qu'elle n'avait pas trop de scrupules ni de difficultés à quitter sa maison. Elle accompagnait son mari dans les dîners où il était invité. Et la seule différence qu'on remarqua entre eux, c'est qu'elle s'asseyait sur une chaise à la manière ancienne, tandis qu'il prenait son repas couché d'après l'usage des Grecs. Les jeunes filles y venaient aussi avec leurs parents. Seulement, on nous dit qu'on avait la précaution de les faire sortir au dernier service, de peur que leur oreille chaste n'entendît quelques propos inconvenants. La réclusion des femmes, comme on voit, n'était pas très sévère sous la République. Elle le devint bien moins encore sous l'Empire. Elles vont alors partout et on les rencontre dans toutes les réunions publiques et privées. À Rome, les princes reçoivent à leur table les épouses des sénateurs avec leurs maris. Il y avait des femmes dans ce dîner coton donné au plus grand personnage de l'Empire le jour où ces soldats révoltés manquèrent à assassiner tout le Sénat. Des femmes faisaient partie de ce groupe de gens distingués et vertueux qui assistaient aux derniers entretiens de Thrasea. Dans les municipes, quand un magistrat généreux donnait à dîner à ses concitoyens, ses repas réunissaient souvent les habitants des deux sexes. Les femmes aussi prenaient place dans les nombreux festins que célébraient partout les corporations. Qu'elles aient quelquefois abusé de ces occasions, qu'elles avaient de courir le monde pour donner des rendez-vous, que dans ces dîners où les convives se croyaient tout permis, elles aussi aient offert quelquefois de fâcheux spectacles, Juvénal le dit, et on peut le croire. Mais on peut croire aussi que le plus grand nombre s'y conduisait autrement. À tout prendre, il vaut mieux qu'on les y ait admises, et leur présence a fini par y introduire plus de décence et de retenue. On leur reproche encore leur prodigalité. Il semble vraiment, dit Juvénal, qu'elle croit que les écus repoussent dans le coffre à mesure qu'on les dépense. Jamais elle ne calcule ce qu'un plaisir peut leur coûter. Les riches achètent à des prix insensés les coupes de cristal, les vases murins. Les autres vendent l'argenterie de famille pour louer des habits et des suivantes quand elles vont au théâtre. Ne pas savoir mesurer son train, sa fortune, se ruiner et s'endetter pour briller plus qu'on ne le peut, manquer de respect à la pauvreté, suivant la belle expression de Juvénal, c'est un vice de tous les temps. Admettons, si l'on veut, que cette époque ait souffert plus que les autres. Cependant, parmi les dépenses dont on fait un crime aux femmes, il en est dont elles se justifieraient aisément. Elles ont pris part, dans une large mesure, à cet élan de générosité qui sembla s'emparer par moments de la société romaine sous l'Empire. Sans être aussi directement mêlés que l'homme aux affaires de leur cité, nous venons de voir qu'elles n'y sont pas non plus tout à fait étrangères. Dès lors, elles se croient obligées aux mêmes munificences envers leurs concitoyens. Une femme riche tient à honneur de faire participer tout le municipe qu'elle habite aux événements heureux qui réjouissent sa maison. Pudentilla, qui épousa le philosophe Apulée, avait distribué au peuple une petite ville d'Afrique 50 000 sesterces, 10 000 francs, à l'occasion du mariage de son fils. Il arrive même quelquefois que leur largesse semble inspirée par la bienveillance plus que par la politique et la vanité. Dans l'inscription funéraire d'une femme de Numidie, après avoir dit qu'elle n'a pas eu qu'un mari, qu'elle a été chaste, rangée, irréprochable, on ajoute qu'elle était une mère pour tout le monde, qu'elle venait au secours de tous les malheureux et qu'elle n'a rendu triste personne, omnium bominum parens, omnibus souveniens, tristem fecit neminem. C'est une épitaphe qui conviendrait à une chrétienne. Il arrive aussi qu'on les raille de leur pédantisme. Et Juvénal a tracé un portrait fort amusant de la savante qui, à table, ennuie les convives en comparant Homère à Virgile, qui se pique de ne manquer jamais aux règles de la syntaxe et qui ne pardonne pas à son mari d'avoir fait un solécisme. Ce n'est après tout que l'excès d'une qualité. Si le pédantisme est un ridicule dont il faut se garder, l'instruction est un grand bien, il convient que la femme y ait part comme l'homme. Les femmes instruites sont très nombreuses au premier siècle. Plusieurs d'entre elles prennent goût aux lettres jusqu'à devenir capables d'écrire elles-mêmes des ouvrages, et personne n'en paraît moins scandalisé, ni même surpris. Agrippine, la mère de Néron, avait composé des mémoires sur sa jeunesse, qui furent publiés. Pline rapporte qu'un de ses amis, personnage d'importance, lui lisait des lettres qu'il prétendait l'œuvre de sa femme, et qu'elles étaient charmantes. Vous croiriez entendre Plaute et Terence parler en prose. Il nous reste de Sulpicia, qui vivait sous Trajan, une satire énergique contre Domitien à propos de l'exil des philosophes. On nous dit qu'elle avait fait paraître aussi un recueil de vers amoureux. C'étaient des élégies qu'on trouvait un peu trop passionnées, mais dont personne n'avait le droit de médire, où elle les adressait à son mari, ce qui faisait dire à Martial qu'elle avait trouvé le moyen d'écrire et d'être en même temps fort légère et très grave. Quand on use si volontiers de la littérature, il est difficile qu'on ne soit pas entraîné quelquefois à en abuser. Et c'est seulement lorsqu'il y a beaucoup de femmes instruites qu'il peut dans le nombre se rencontrer quelques pédantes. Ces abus et d'autres que les satiriques énumèrent avec complaisance ne sont pas surprenants avec le changement qui s'était fait dans la façon de vivre des femmes. Le vieux Caton disait d'elle que c'étaient des êtres indomptés et qu'il ne leur était pas possible de garder en rien une juste mesure. Dans ces libertés qu'on leur accorda ou qu'elles prirent, beaucoup allèrent trop loin. On avait annoncé que le jour où elles seraient les égales des hommes, elles voudraient les dominer. C'est ce qui ne manqua pas d'arriver. Quand elles se sentirent maîtresses d'elles-mêmes et quelquefois des autres, elles devinrent violentes, hautaines, insupportables. Elles exerçaient l'autorité domestique avec une impitoyable dureté, rudoyant leurs maris, battant leurs esclaves. Quelques-unes, voulant pousser l'égalité jusqu'au bout, se plaisaient à envahir les métiers que les hommes s'étaient jusque-là réservés. On voyait des femmes avocats, jurisconsultes, et ce qui est plus grave, des femmes athlètes et gladiateurs. Elles fuyaient leur sexe, dit le satirique, et pour prendre ce qu'il y a de plus désagréable dans le nôtre. Ce sont là de graves défauts sans doute, mais je le répète, en supposant que les contemporains ne les aient pas exagérés par l'habitude qu'ils avaient prise de juger leur temps avec les préjugés du passé, n'oublions pas qu'ils furent la condition, la conséquence d'un progrès dont l'humanité a profité. Ils représentent cette portion de mal qui se mêle toujours aux meilleures choses et qui ne doit pas pourtant nous les faire méconnaître et calomnier. Quant aux accusations plus graves dont je n'ai encore rien dit, à ces adultères scandaleux, à ces mariages si souvent rompus par des séparations sans motif, à ces désordres, à ces crimes qui troublent les familles et la société, il faut répéter ici ce qui a été dit ailleurs au sujet des peintures de Juvénal. On ne peut pas prétendre sans doute qu'elles soient entièrement fausses. Ni ce poète, ni d'autres moralistes n'ont inventé les faits honteux qu'ils racontent. Mais rien n'empêche de croire que, selon leur usage, il n'est fait de l'exception la règle. Je suis frappé de trouver chez presque tous ceux qui ont si mal parlé de leur temps des contradictions qui m'étonnent. Par quel étrange hasard arrive-t-il que ce que nous savons d'eux-mêmes et de leur famille proteste contre leur sévérité. Tacite traite en général assez durement les femmes. On voit bien que ce conservateur obstiné goûte peu les changements qui se sont accomplis dans leur manière de vivre et qu'il est médiocrement partisan des libertés qu'on leur accorde. Et quand il dit des germaines, elles vivent sous la garde de la chasteté loin des spectacles qui corrompent les mœurs, loin des festins qui allument les passions. Hommes et femmes ignorent également l'art d'écrire de mystérieuses correspondances. Il est clair que cette admiration des mœurs lointaines couvre un blâme pour son pays. Cette intention est plus visible encore lorsqu'il ajoute « Là, on ne rit pas des vices. Corrompre et céder à la corruption ne s'appelle pas vivre selon le siècle. » Paroles amères et vraiment dignes de Juvénal. Cependant, on vivait honnêtement autour de Tacite, quoiqu'on en a quelquefois au théâtre et qu'on eut le malheur de savoir écrire. Il laisse deviner, en quelques mots voilés et touchants, l'estime qu'il avait pour sa femme. Elle au moins ne devait pas vivre selon le siècle. Il célèbre avec attendrissement l'excellent ménage d'Agricola, son beau-père, et de Domitia de Tidiana. Ils vécurent, nous dit-il, dans une admirable concorde, pénétrés d'une tendresse mutuelle et chacun donnant à l'autre la préférence sur lui-même. Il semble que dans ce milieu honnête, il aurait dû prendre des impressions moins défavorables à son temps. Sénèque est plus dur encore que Tacite, quoiqu'il ne fasse pas profession comme lui d'admirer toujours le passé. Dans les ouvrages que nous avons de lui, il ne manque pas une occasion de maltraiter ses contemporaines. Elles en sont venues à ce point, dit-il, qu'elles ne prennent plus un mari que pour exciter leurs amants. Quand une femme est chaste aujourd'hui, c'est une preuve certaine qu'elle est laide. Il avait même à composer un traité spécial contre elle, des matrimoniaux, qui est perdu, mais que les pères de l'Église, dont il flattait les idées, citent avec plaisir. Il y reprenait tous les arguments bons ou mauvais que les poètes comiques développaient depuis des siècles contre le mariage. Il rappelait ce qui était tout à fait conforme aux usages romains, qu'on ne choisissait pas sa femme et qu'il fallait la garder comme le hasard vous la donnait. Si elle est colère, sotte, laide, malpropre, si elle a quelque autre défaut, nous ne le découvrons jamais qu'après la noce. Un cheval, un âne, un bœuf, un chien, un esclave, un vêtement, une chaise, une coupe, des vases de terre. On les examine au moins avant de les acheter. La femme est la seule chose qu'on prenne sans la voir. On a craint sans doute qu'on ne l'épousât jamais si on l'avait vue auparavant. Sénèque était vraiment bien ingrat de traiter ainsi les femmes. Il n'y a pas de philosophe qui ait eu à s'en louer plus que lui. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, elles l'ont entouré de leur affection. Il leur doit sa fortune politique et son bonheur intérieur. Ce grand ennemi du mariage s'était marié deux fois, mais l'on ne voit pas qu'il ait eu à le regretter. Il nous dit que, tout stoïcien qu'il était, il pleura beaucoup sa première femme. Quand il épousa la seconde, Paulina, il était déjà vieux, mais ce mariage sembla lui rendre la jeunesse. Il avait dit, quelque part, « Aimer la femme d'un autre est un crime. Aimer la sienne est un excès. Le sage doit s'attacher à sa femme par raison et non par affection. » Il paraît dans sa vie avoir oublié ce précepte, comme il en a oublié tant d'autres. Quand il parle de Paulina, l'affection la plus vive et la plus touchante semble animer ses paroles. Dans l'une de ses lettres, il raconte qu'il est malade et que Paulina le force à se soigner. « Comme sa vie, dit-il, dépend de ma vie, je prends soin de moi pour prendre soin d'elle. Qu'y a-t-il de plus agréable que d'être si aimé de sa femme que pour l'amour d'elle, on s'aime soi-même davantage. On sait qu'elle voulut mourir avec ce mari qu'il aimait si tendrement et dont elle était si fière, et que, ramenée malgré elle à la vie, elle ne lui survécut que quelques années, gardant pieusement son souvenir et honorant sa mémoire. L'exemple de Paulina nous montre que les grandes épreuves du règne des Césars ne furent pas perdues pour les femmes. Juvénal avait raison de dire que la prospérité les avait gâtées. Le malheur les rendit meilleures. Elles donnèrent d'admirables spectacles dans ces temps horribles. Beaucoup se résignèrent volontairement à la pauvreté après avoir vécu dans l'opulence. D'autres accompagnèrent leurs maris en exil. Quelques-unes surent héroïquement mourir. Telle fut cette jeune Paulita, la fille du consulaire Antistius Verus, dont Tacite nous a raconté la fin touchante. Néron lui avait enlevé son mari, le sage Rubellius Plautus. Elle avait tenu dans ses bras sa tête coupée, et depuis ce moment elle vivait dans le deuil et les larmes, se privant de tout et gardant ses vêtements ensanglantés comme une relique. Mais quand elle apprit que la vie de son père était menacée, elle oublia ses douleurs et ses colères et alla se jeter aux pieds de Néron. Elle n'épargna rien pour le toucher, et le trouvant insensible, elle revint annoncer à son père que tout espoir était perdu et mourir avec lui. Il ne m'est pas possible de croire qu'à la suite de ces crises violentes, après les règnes de Néron et de Domitien, la société n'ait pas été purifiée par la souffrance. La vertu des femmes s'y est certainement retrempée. Le palatin où avaient régné Messaline et Poppée est occupé s'outrageant par des princesses honnêtes, modestes dans leurs toilettes, simples dans leurs trains, affables dans leurs manières, et qui pratiquent toutes les vertus domestiques. Dans le grand monde qui prend modèle sur ses maîtres, les mœurs semblent aussi devenir plus pures. C'est au moins l'impression que laisse la lecture des lettres de Pline. Rappelons-nous ce qu'il nous raconte de cette admirable lignée de Thrasea, où trois générations de femmes ont successivement fait preuve de tous les dévouements et de tous les sacrifices. Ce sont des exemples que, pour être juste, il convient d'opposer au tableau de Juvénal. Il montre que, dans cette société, comme dans toutes les autres, de grandes vertus se mêlaient à de grands scandales, que les femmes n'y étaient pas aussi dépravées qu'il peut être satirique de le prétendre, et qu'il n'est pas possible de soutenir, comme on était alors tenté de le faire, que l'éducation plus libre qu'on leur donnait et l'indépendance dont on les laissait jouir les condamnaient à une inévitable corruption.